Les Occidentaux ont-ils renoncé à respecter les commandements de Dieu? Les enquêtes indiquent que moins de personnes se déclarent aujourd'hui chrétiennes, moins de personnes assistent régulièrement à des offices religieux et moins de personnes considèrent les commandements bibliques comme des guides faisant autorité pour leur comportement quotidien. Les chercheurs attribuent cette évolution à un glissement des, entre guillemets, valeurs traditionnelles vers les valeurs d'expression personnelle. Donc, de la partie traditionnelle, l'idée, c'est qu'on glisse vers des valeurs qui sont plus en plus personnelles et qui n'ont pas des normes sociales. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que nous nous trouvons dans une période où l'autonomie individuelle remplace les normes morales héritées. Et donc, qu'est-ce qui guide la société aujourd'hui, si nous sommes dans une période d'autonomie? On ne peut pas juste être guidé par soi, il y a toujours une influence quelque part, n'est-ce pas? Selon les données de ce qui s'appelle World Values Survey, un sondage des valeurs personnelles dans le monde entier, fondé il y a 45 ans, les sociétés occidentales sont largement guidées par une combinaison d'humanisme laïque, de cadres de droits individuels et d'éthique pluraliste, plutôt que par une doctrine religieuse commune. Les recherches menées dans le cadre d'enquêtes mondiales sur les valeurs montrent que l'accent est de plus en plus mis sur la liberté personnelle, l'égalité et l'expression de soi comme valeur sociale ou sociétale fondamentale. L'autorité morale est désormais plus susceptible de provenir des systèmes juridiques. Il y a quand même une limite. Donc c'est la loi, dans un sens, la loi juridique, qui arrive à établir les limites dans la société. Ça, pour moi, ce n'est pas bon. Ça veut dire que les gens vont pousser jusqu'à ce qui est interdit dans les systèmes juridiques. Ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, nous avons le consensus social et de la conscience personnelle, et au lieu d'être guidé par des institutions religieuses. Alors, frères et sœurs, quels sont les résultats des mœurs actuelles de la société d'aujourd'hui? Contribuent-elles à créer une société meilleure de votre point de vue? D'après ce que vous observez autour de nous, est-ce que la société s'améliore davantage? Pendant d'innombrables années, la recherche d'une société meilleure a été au centre et encore au centre des discussions et des débats philosophiques. La recherche d'une société « meilleure » entre guillemets est-elle pertinente aujourd'hui dans la société? Quel est le modèle dominant? Bien sûr, il y a beaucoup de questions à poser. Où se déroulent aujourd'hui les discussions sur tous ces sujets? Si nous devions nous impliquer, aurions-nous une position sur cette polémique, serait-elle fondée sur la Bible? Certaines personnes affirment que la Bible n'est plus pertinente, mais ont-elles une position ou sont-elles juste celles qui pourraient être réceptives à des arguments solides tirés des Écritures? Ça dépend de comment nous voyons le monde. Si nous voyons un monde qui a les yeux fermés, qui ne sera pas capable de comprendre une explication biblique, peut-être ça va limiter notre discussion avec quelqu'un qui serait peut-être susceptible de comprendre quelque chose. Après tout, c'est Dieu qui appelle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui ouvre l'esprit. Quel est notre rôle en tant que membre de l'Église, en tant que disciple de Jésus-Christ? Je suis certain que nous sommes d'accord que nous faisons partie de la prédication de la vérité, de l'Évangile, et que notre exemple compte pour quelque chose, notre exemple individuel. Pour les membres de l'Église de Dieu, la ligne, si vous voulez, est clairement défini dans les Écritures et ne doit pas être laissé à la société. Nous tirons nos conclusions de la parole de Dieu. Nous établissons notre conduite d'après les commandements de Dieu. Les 10 commandements font partie des fondements essentiels pour comprendre Dieu et pour lui obéir. Il s'agit de 2 concepts distincts, comprendre et obéir, mais il y a un lien entre les deux. Et Dieu utilise les 10 commandements, il se sert des 10 commandements tout au long de la Bible pour aider son peuple à apprendre et à grandir, à croître. Ce n'est pas juste une liste qui apparaît une fois dans Exode 20 et c'est tout. Ce n'est pas juste une liste qui apparaît dans Deutéronome 5 ou 6 une fois et c'est tout. Ce n'est pas juste quelques listes qui apparaissent dans la Bible. C'est plus que ça. La Bible est établie sur ces choses. Aujourd'hui, nous allons discuter du 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Parce que nous avons notre série sur les 10 commandements, nous allons discuter ce 7e. Nous sommes arrivés comme ça aujourd'hui, et alors commençons. Commençons par aborder l'objectif général des 10 commandements. Ça nous donnera un contexte pour les commandements 6 à 10, si vous voulez. Considérons Matthieu 22. Matthieu 22, parce que ceci nous donne vraiment un contexte pour mieux comprendre le contexte général des 10 commandements. Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Nous soulignons bien ici pour l'éprouver, n'est-ce pas? Donc, un peu plus loin, verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Nous avons ici, frères et sœurs, une question posée par un pharisien qui semble plutôt, des fois, insignifiante à première vue. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Ça semble comme juste une question piège, si on le lit comme ça. Mais avez-vous considéré déjà ceci, avez-vous rencontré quelqu'un qui vous suivait partout et qui essayait de vous critiquer de toutes les manières possibles? C'est exactement ce que les scribes et les pharisiens faisaient à Jésus. Ils n'arrêtaient pas d'essayer de le piéger, de le confondre ou d'obtenir des preuves contre lui. Le passage nous indique que la question, si vous voulez, n'était pas vraiment sincère. C'était une question pour le tester, n'est-ce pas? Je pense toutefois qu'il est important de noter que de tels tests peuvent arriver à n'importe quel d'entre nous. Lorsque nous faisons de notre mieux, même pour obéir aux commandements de Dieu, c'est en obéissant à Dieu que nous allons rencontrer des situations de confrontation, parce que le monde n'est pas d'accord avec la loi divine. Le monde veut que chacun de nous soit comme le monde, n'est-ce pas? Donc, il y aura toujours des personnes qui tenteront de nous tester et de nous faire trébucher alors que nous vivons selon la voie divine. Il y a cependant un principe plus profond encore que je voulais mentionner ici. Je crois que ce principe plus profond, c'est que la nature humaine a tendance à considérer certains commandements comme plus importants que d'autres. Ce n'est pas mentionné par lettre dans le texte, mais je pense que si nous méditons là-dessus, ça a du sens. Une conséquence de cette nature humaine, c'est que la nature humaine a également tendance à considérer certains péchés comme moins graves que d'autres. Et pour aller plus loin, il faut reconnaître que la nature humaine a tendance à considérer même certains péchés comme moins graves lorsqu'elle est tentée. Lorsqu'elle est baissée la garde, lorsqu'on baisse la garde, ou que quelqu'un va se conformer à de mauvais exemples. C'est ça quand on a vraiment un test de notre fidélité, un test de notre compréhension de l'importance des commandements de Dieu. Jésus ne s'est pas laissé égarer ou piéger par ses tentatives constantes. Et il a même utilisé la question que nous avons lue ici comme un mouvement de judo, si vous voulez, pour créer un mélange monumental de passages bibliques basés sur Deutéronome 6, Lévitique 19 et plusieurs autres passages clairs dans les Écritures. Et c'est résumé ici dans les versets 37 à 40. Lisons un petit peu plus. Verset 37, sa réponse est ceci. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Nous avons déjà ici vécu une réorientation spirituelle, une explication profonde de comment on est censé, en général, de comprendre les commandements de Dieu. Quelle est la base? Quel est le fondement de ces choses? Qu'est-ce qui tient toutes ces choses? De quoi déroule-t-il? Et si vous voulez, frères et sœurs, c'est un peu ça que la société n'a pas aujourd'hui. C'est ça qui n'existe pas dans notre société aujourd'hui. Donc, comme il n'y a pas quelque chose qui tient, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de règles strictes. On va jusqu'au point, comme je vous ai mentionné, à un arrêt juridique où on va transgresser une loi juridique. C'est ça qui limite les gens dans un sens aujourd'hui et c'est dommage. Parce que la personne qui est compétente est censée d'exister et de vivre sa vie dans un certain cadre, mais ne pas être toujours en train de pousser et franchir la loi. C'est ça notre existence dans la société aujourd'hui. Nous voyons autour de nous une société qui pousse, qui veut aller plus loin, qui veut dépasser, qui dépasse express par des désobéissances prévues. Et c'est ça qui fait que cette société est vraiment loin de ce que nous venons de lire. Quelque chose qui est établi avec un cœur dévoué à obéir, avec un cœur dévoué à aimer notre prochain. C'est quand même quelque chose qui manque, n'est-ce pas? Et nous, aujourd'hui, nous constatons le manque de toutes ces choses dans ce que nous voyons autour de nous. Donc, pour résumer des fois ce passage que je viens de vous lire, on dit souvent dans l'Église que les quatre premiers commandements nous enseignent comment aimer Dieu et que, tandis, les six autres nous enseignent à aimer notre prochain. Et quand on dit cette chose dans l'Église, quand on explique ça, c'est en rapport avec ce passage que je viens de vous lire. Donc voilà une question générale pour le contexte de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas prendre les mœurs de la société occidentale pour établir notre réponse sur le septième commandement, notre explication. Nous allons chercher dans la parole de Dieu. Donc, considérons Exode 20, justement, en examinant ces choses. Exode 20, là, où je vous ai mentionné déjà, où se trouve une liste très importante. Ça fait partie des passages des plus importants pour un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Exode 20 est vraiment important pour nous tous. Lévitique 23, bien sûr, aussi, est aussi très important. Matthieu 5 à 7, très important. Matthieu 24, très important pour chacun d'entre nous. Il y a bien, on ne peut pas dire que la Bible n'a que quelques passages importants. Mais si vous voulez, dans le principe que Jésus même vient de nous expliquer, il y a des endroits dans la Bible où on voit des passages fondamentaux, des passages qui tiennent les autres idées et explications qui sont élaborées ailleurs dans la Bible. Et Exode 20 en fait partie. Donc, en examinant attentivement l'ordre des commandements, 6 à 10, ou même 5 à 10, nous pouvons remarquer quelque chose que moi je trouve assez intéressante. D'abord, nous allons lire Exode 20 à partir du verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Verset 13, « Tu ne tueras point. » Verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Verset 15, « Tu ne dérobaras point. » « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » « Tu ne convoitiras point la maison de ton prochain, tu ne convoitiras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Donc voilà, nous avons les commandements 5 à 10 que je viens de vous lire, et je pense que cela est intéressant à considérer. Si nous devions, par exemple, pour imaginer un peu, si nous devions tracer des cercles concentriques avec le cinquième commandement au centre, une façon de représenter les commandements 6 à 10 serait de les placer chacun, hein, quelque part dans ces cercles concentriques, en commençant avec l'unité de la famille. La famille est l'endroit d'apprentissage. Et puis, le lieu familial semble, comme je vous ai mentionné, pour ceux qui nous enseignent à aimer notre prochain, ça semble commencer avec le cinquième commandement, qui est la famille, n'est-ce pas? Donc, si on pense à des cercles concentriques qui s'agrandissent comme ça, je pense que nous avons une idée que au centre, nous avons la famille, et à l'extérieur, nous avons la société externe, n'est-ce pas? Je pense que ça donne un contexte pour comprendre un peu mieux le septième commandement en particulier. Parce que le septième commandement a un fort impact sur la famille et à la fois la société. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est un impact sur les deux. Donc voilà, tout péché, bien sûr, est contre Dieu. Mais enfreindre les commandements 6 à 10 implique également de pécher contre une autre personne, n'est-ce pas? Je dis cela parce que lorsque nous considérons le septième commandement, il convient de souligner son importance en termes d'impact sur la cellule familiale, en premier lieu. Est-ce que quelqu'un ici connaît le centre de la cellule familiale? C'est le couple marié, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'enfants. Si on est un couple marié, on est déjà une famille, d'accord? C'est ça qui commence la cellule familiale. Je pense que c'est important à se rendre compte, parce que si le couple familial n'est pas solide, la famille, les enfants et tout ce qui est autour ne sera pas solide. Des fois, des personnes qui ont peut-être des problèmes dans le mariage, ils vont se demander pourquoi nos enfants sont tellement rebelles. Pourquoi ils sont comme ça? Sans se rendre compte que leur exemple et leur manque de stabilité dans le couple a un impact sur les enfants. Donc ça, c'est un principe à considérer. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour illustrer que la cellule familiale commence avec le couple et que le septième commandement impacte fort le couple. Donc, commençons maintenant en discutant un peu la société et le septième commandement aujourd'hui. Saviez-vous que la loi catholique et juive, les deux, interdisent techniquement au clergé de célébrer le mariage d'adultère connu et impénitente. Donc, si c'est connu, la loi catholique et juive interdise ces choses. Intéressant. Dans son livre intitulé « Les Dix Commandements »,« The Ten Commandments », par Dr. Laura Schlesinger, Elle explique que l'omniprésence de ce comportement de l'acceptation générale apparente de la société de ce qui est considéré comme la nature humaine, sauf lorsqu'il s'agit des actions de leur propre conjoint, soit dit en passant, en font une question extrêmement difficile et délicate à traiter. Donc, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que la décision de marier les personnes, que ce soit dans l'Église de Dieu, que ce soit dans d'autres fois, dans la loi catholique aux Juifs, ça tombe éventuellement sur les épaules d'un pasteur, d'un rabbin ou d'un prêtre. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, même dans la société moderne, font face à une question très difficile. Parce que qu'est-ce qui définit ces choses? Est-ce que les gens sont sérieux quand ils se présentent pour le mariage? Est-ce que tout est révélé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu acceptées, qui ne devraient pas être acceptées? Donc, moi, je ne me concerne pas avec la loi catholique ou juive dans un sens propre, mais je voudrais juste mentionner ça parce que Dr. Schlesinger a mentionné cette difficulté dans notre société aujourd'hui. Elle a même dit « Notre société redéfinit constamment la moralité et en général, elle évolue dans une direction descendante, permissive, sans jugement, centrée sur soi » et égocentrique. Est-ce que cela vous fait penser à 2 Timothée 3, comme nous avons lu la dernière fois? Oui, ça fait penser à ce passage biblique du Nouveau Testament. Donc, elle dit aussi que le docteur Stephen Klein a mentionné que certains scandales dans le gouvernement ne reflètent pas seulement la tendance à s'éloigner d'une moralité stricte, mais que ces choses accélèrent en posant la question jusqu'où le public est-il prêt à abaisser son niveau d'acceptabilité? Il y a-t-il une limite? L'idée que notre vie publique, hein, les gens qui sont dans la vie publique, les gens qui sont les leaders dans un sens de la société, que ces gens-là puissent faire ces choses comme des scandales et encore servir, c'est quand même assez affreux. Donc, la culture nord-américaine actuelle connaît une perte perpétuelle de culpabilité et de honte et semble glisser vers un modèle de relativisme moral. C'est déjà identifié. Mais Dr. Schlesinger a déclaré dans son livre « Les gens considèrent l'adultère comme répréhensible de la même manière qu'ils considèrent qu'il est souhaitable d'être mince, mais n'ont pas la volonté nécessaire pour maintenir leur poids. » C'est un peu pour expliquer comment les gens voient l'adultère aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que c'est important ou pas aux yeux de la société? Bien sûr que c'est optionnel, je dirais. Dans la vue de plusieurs. Cependant, nous savons que Dieu condamne l'adultère avec le 7e commandement et bien sûr ailleurs. Dieu nous aide même à comprendre son amour et son attention pour son peuple en se servant d'une métaphore du mariage. Donc, il est très important de connaître ça. Par exemple, dans Osée, le thème de la prophétie et la miséricorde de Dieu envers Israël qui est pécheur, qui finira par revenir à Dieu dans un repentir sincère et authentique. Mais dans les chapitres 1 à 3 du livre d'Osée, Israël est décrit comme une épouse infidèle et est exhortée à revenir envers son Dieu, qui lui témoignerait miséricorde et compassion. Considérons Osée 2. Osée 2. C'est beaucoup de choses à résumer. On ne va pas tout lire, mais il y a quelques exemples assez assez touchant, assez illustré ici, imagé, qui sont importants pour notre compréhension. Ça commence avec Osée 2. Osée 2, versets 1 et 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni compter. Et au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Verset 2, « Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jizril. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, rue Shema. » Donc, dans ce passage ici, il est question du peuple de Dieu. « Vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. » Mais les enfants de Juda et les enfants d'Israël vont se rassembler. Donc, il est important à considérer, si vous connaissez un peu l'histoire ici, c'est que Osée était indiqué à se marier avec une prostituée. Mais le contexte que je voulais donner, c'est un peu plus expliqué dans Osée 2, verset 19. Osée 2, verset 19. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays d'arc d'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Intéressant. C'est un peu différent dans l'anglais, mais l'idée ici, c'est d'être un fiancé pour toujours. C'est d'être fiancé, d'être marié pour toujours. Je vois mieux mes notes maintenant, merci. Mais ça n'arrive pas souvent, ça. Dans ce passage, le mariage, ou même ici, l'idée d'être fiancé, est une métaphore de notre relation idéale avec Dieu. Et le mariage est éternel, dans ce sens-là, et pour toujours, et pour toute la vie. Et le mariage, dans le sens de Dieu, est pour l'éternité. Si nous modélons notre approche des relations sexuelles sur cet idéal, alors nous établissons le caractère sacré du mariage. Les relations sexuelles ne doivent avoir lieu qu'entre un mari et une femme dans le cadre de leur relation conjugale. Et nous constatons que ce n'est pas une valeur de notre société aujourd'hui. D'autre part, l'adultère est utilisé pour décrire l'infidélité envers Dieu. Commettre l'adultère corrompt la relation conjugale, tout comme l'idolâtrie corrompt notre relation avec Dieu. Même commettre la fornication en dehors du mariage dénigre le but et la nature particulière de la sexualité. Dans nos propres vies, Dieu nous appelle à une relation particulière. Lorsque nous sommes appelés, nous commençons dans un état de maturité spirituelle qui n'est pas développé quand nous sommes appelés. Et puis, en essayant de connaître Dieu et de comprendre sa volonté, nous sommes amenés à comprendre comment Dieu veut que nous l'adorions et que nous obéissions et à ses commandements d'amour. Nous commençons à comprendre qu'il y a un engagement de la part de Dieu aussi et une attente d'engagement de notre part dans cette relation spéciale. Lorsque nous nous engageons à suivre la voie divine, Dieu attend de nous un engagement à vie. Nous comprenons que Dieu souffre et ressent notre infidélité dans notre relation avec lui. Tout cela rend la relation significative. Et nous pouvons constater les parallèles entre notre relation avec Dieu, comme je l'ai décrit, et un mariage. Un mariage qui se développe à travers des années, qui est une relation qui évolue à travers plusieurs années de la vie et plusieurs circonstances aussi. Donc, le livre d'Osée englobe la douleur de l'adultère et la souffrance causée par la trahison. Mais en même temps, nous découvrons la miséricorde et l'amour infini de Dieu. Intéressant que Dieu se sert de cette manque de fidélité du côté de la femme d'Osée pour illustrer jusqu'à quel point il nous aime. Dieu ne nous abandonne jamais, mais nous devons nous repentir sincèrement pour restaurer cette relation précieuse. Quand même, il attend de nous quelque chose. Mais considérons maintenant la signification de l'adultère et des péchés qui sont connexes. Le terme adultère désigne une activité sexuelle impliquant au moins une personne mariée. Cependant, la Bible indique clairement que l'adultère n'est pas le seul type d'activité sexuelle que Dieu considère comme un péché. Je ne lirai pas Lévitique 18, versets 6 à 23, mais si vous prenez des notes, je vous encourage à lire ce passage, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de choses interdites par Dieu dans le cadre de la sexualité. Je ne vais pas les détailler devant vous maintenant, mais pour ceux qui prennent note, je vous encourage de les faire chez vous. La fornication, qui est définie comme une relation sexuelle entre deux personnes non mariées, est également condamnée dans la Bible. Nous avons même des passages à considérer. Matthieu 15, par exemple. Matthieu 15. À la fois, Jésus condamne l'adultère et la fornication en même temps. Matthieu 15. Matthieu 15 et le verset 19. Matthieu 15 et le verset 19. « Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc, intéressant. Il mentionne qu'il y a un aspect pureté qui est mentionné ici, un aspect d'être saint et ou d'être impur dans un sens spirituel qui souille l'homme. Qu'est-ce qui souille l'homme? C'est les choses spirituelles, c'est les mauvaises pensées. Et le meurtre et la débauche fait partie de cette liste. C'est une autre façon de dire la fornication, la débauche en français. Donc, il y a bien d'autres endroits, je peux vous les lister si vous prenez note. C'est 2 Corinthiens 12 et le verset 21. 2 Corinthiens 12 et le verset 21. On va juste lire ça rapidement pour avoir quelques exemples. 2 Corinthiens 12, verset 21. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de question. Les choses comme ça sont identifiées assez clairement dans la Bible. Verset 21, Paul explique, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. » Il est question de fornication ou la débauche, c'est un autre mot. Galates 5 et le verset 19 aussi, si vous prenez note, on ne va pas le lire tout de suite. Éphésiens 5 et le verset 3. Et puis Colossiens 3 et le verset 5. Donc il y a bien des exemples dans le Nouveau Testament qui soutiennent l'idée que les relations sexuelles en dehors du mariage ne sont pas autorisées, sont considérées un péché. Donc, compte tenu du poids des preuves bibliques condamnant toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage, les théologiens et les commentateurs bibliques sont d'accord presque tous sur le lien entre le commandement septième contre l'adultère et les commandements contre la fornication ou la débauche. Ces choses sont liées. Intéressant, le docteur Schlesinger souligne dans son livre que l'adultère est également une forme de vol. Avez-vous considéré cela? L'adultère, elle dit, l'adultère extérieur qui s'immisce dans un mariage vole l'affection d'un conjoint à l'autre. Parfois, l'adultère extérieur affirmera qu'il ou elle répond à des besoins que le conjoint actuel n'est pas en mesure de satisfaire. En fin de compte, la relation extérieure n'est qu'une distraction, privant le conjoint et la famille de l'attention et de l'amour qu'ils méritent. Donc, ça explique que c'est comme une forme de vol. Elle poursuit ensuite, « Plus important encore, l'adultère affecte la stabilité de la famille, sapant la confiance entre le mari et la femme et menaçant l'intégrité de la cellule familiale. L'avenir de la famille est compromis. » Donc, comme je vous ai déjà mentionné, la cellule familiale commence avec le couple. Maintenant, considérons l'adultère dans le cas d'un divorce et d'un mariage de nouveau. Lorsque nous examinons l'enseignement de la Bible sur l'adultère, celui-ci va de pair avec le divorce. Dieu déteste clairement le divorce, mais sous l'ancienne alliance, un certificat de divorce était autorisé. On peut se demander pourquoi. Jésus a à nouveau pressé, comme je vous ai mentionné, testé et mis à l'épreuve de diverses manières, affirme clairement le désir de Dieu, depuis le début, de renforcer la force et le caractère sacré du mariage. La plupart des couples mariés seront probablement confrontés à des difficultés ou à des défis relationnels à un moment donné, mais Dieu veut que le mari et la femme comprennent leur tâche et comprennent que leur tâche consiste à surmonter les défis qui se présenteront. On ne peut pas tout prévoir, mais on est engagé entre les deux personnes à toujours travailler ensemble pour surmonter les défis et non à simplement renoncer à leur relation. Il ne s'agit pas d'une situation unilatérale où l'un des conjoints supporte simplement le fardeau du comportement répréhensible de l'autre. Non, les deux doivent s'impliquer. Au fil des ans, j'ai conseillé des couples engagés et des couples qui ne l'étaient pas. On voit vraiment la différence entre les deux cas. Les efforts d'un seul conjoint ne suffisent pas. À moins que certains critères ne soient remplis, Dieu n'autorise pas le remariage après un divorce. Cependant, il existe des cas très spécifiques dans lesquels la Bible permet à un conjoint d'être libéré du mariage et libre de se remarier. Pour détailler cela, je vais m'appuyer sur un article de Life Open Truth, de Vie, Espoir et Vérité. Donc, je vais vous lire une partie de cet article-là. Les pharisiens ont insisté davantage auprès du Christ en lui posant des questions sur l'acte de divorce, une dissolution légale du mariage qui permettrait aux parties de se remarier librement sous le gouvernement de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Bien que l'intention initiale de Dieu était que les mariages durent jusqu'à la mort, il comprenait que le divorce et le remariage pouvaient se produire. L'intention de Dieu est rarement mise en pratique par l'homme, bien sûr. L'humanité coupée de Dieu le rejette, lui et ses instructions. Dieu a permis que des jugements soient rendus concernant le mariage, le divorce et le remariage sous l'ancienne alliance. Le certificat de divorce auquel les pharisiens faisaient référence se trouve dans Deutéronome 24, le verset 1. Deutéronome 24 et le verset 1, on va le lire rapidement. Deutéronome 24 et le verset 1. Si on fait référence à ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc c'est très simple dans ce contexte-là, mais bien sûr, frères et sœurs, il y a beaucoup de temps qu'on pourrait passer sur l'explication de ceci. Mais je continue avec l'article de Vie, Espoir et Vérité. Jésus, par contre, a expliqué pourquoi le divorce avait été autorisé. Il leur dit, « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. » Ceci se trouve dans Matthieu 19, si vous voulez suivre ça. Matthieu 19 et le verset 7 à 9. Donc ceci que nous venons de lire dans Deutéronome 24, c'est bien le certificat dont on parle ici, Matthieu 19. Matthieu 19, verset 7. Donc, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et puis, il continue, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » D'accord? Donc, on continue avec l'article. Que voulait dire le Christ par dureté de cœur? Il fait référence à la tendance naturelle du cœur, de l'esprit humain, à résister au mode de vie ou à la voie divine. Sans l'Esprit de Dieu, les hommes et les femmes n'ont tout simplement pas par nature le cœur de craindre Dieu et de toujours respecter ses commandements. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a expliqué que les instructions du Deutéronome 24 signifiaient que le péché d'immoralité sexuelle était une cause acceptable de divorce. Donc le terme qu'il a utilisé englobe un large éventail de comportements sexuels déviants. Donc voilà, ça c'est l'explication de Vie, Espoir et Vérité. Certains péchés peuvent rompre le lien de confiance sur lequel repose l'alliance du mariage. Donc, considérons maintenant l'esprit du septième commandement. Cela nous amène à l'esprit du septième commandement. Alors que nous venons d'entrevoir la destruction que peuvent causer les relations extra-conjugales et l'adultère, il serait bon de considérer l'enseignement du Christ sur la manière d'arrêter ce processus bien avant qu'il ne conduise à une relation d'adultère. Remarquez les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 5. Matthieu 5, on est déjà en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, considérons Matthieu 5 et le verset 27. Matthieu 5 et le verset 27. Christ dit ici, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, voilà, ça c'est le verset. Dans ce chapitre, Jésus-Christ a expliqué l'importance d'obéir aux 10 commandements de Dieu, non seulement dans la lettre de la loi, mais aussi dans l'esprit de la loi. Cela signifie qu'une personne peut être coupable d'avoir enfreint les commandements en ne contrôlant pas ses pensées et en ne chassant pas les mauvaises pensées. Donc ça s'arrête jusqu'à ce point-là. Si une personne fantasme dans son esprit sur des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint, ses pensées sont pécheresses et mauvaises. Ce n'est pas autorisé. Dans Matthieu 5 et le verset 28, Matthieu 5 et le verset 28, nous avons déjà lu un petit peu de ça. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, dans Matthieu 5, le verset 28 ici, Jésus a clairement enseigné ce qui est clair, que ça doit commencer dans le cœur et dans l'esprit. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui expose sans vergogne des sujets et des images à caractère sexuel, même à tous les âges, même à tous les âges. Alors que les classifications existent toujours pour les films, les jeux vidéo et la plupart des émissions de télévision, les sites Internet ne disposent pas d'un système de classification aussi clair. Et bien sûr, si vous vous baladez sur Internet, vous êtes à risque. Si vos enfants se baladent sur Internet, ils sont à risque. Parce que là, tout est autorisé. Il n'y a pas une classification pour les sites Internet. C'est plutôt des gens qui le font volontairement quand ils veulent, mais ce n'est pas du tout contrôlé. Donc, nous vivons dans une société qui est vraiment difficile dans un sens, parce qu'il faut quand même rester sur nos gardes. Il faut être mis en garde de toutes ces choses. Et il faut commencer très tôt à protéger nos enfants, parce que c'est justement le lieu, le siège ici de la pensée et l'esprit. C'est ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils absorbent lorsqu'ils sont encore jeunes. Mais c'est quand même la même chose pour les adultes aussi. Nous devons contrôler ces choses pour nous-mêmes. Donc faisons attention parce que l'Internet n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc Paul nous adresse justement dans le cadre de l'idée de nos pensées, nous pouvons considérer 2 Corinthiens 10. Paul nous adresse un avertissement. 2 Corinthiens 10 et le verset 3. C'est quand même une bataille spirituelle qui est en cours. Et malheureusement, les enfants ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri dans un sens où la société ne les protège pas. C'est aux parents de le faire. 2 Corinthiens 10 et le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses, il continue, verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est quand même notre démarche à faire quand il s'agit de notre pensée. Donc, voilà pour résumer un peu l'esprit de la loi dans le sens du 7e commandement. Pour terminer aujourd'hui, nous devons constater que Jésus et ses apôtres ont délibérément et clairement établi la norme consistante à se concentrer sur l'origine du péché afin d'éviter des conséquences désastreuses, non pas seulement pour l'individu, mais pour toute la société, et pour rester proche de Dieu dans ce combat spirituel. Les normes qu'ont établi Jésus-Christ et ses disciples après lui sont claires pour ceux qui sont appelés à devenir les prémices du royaume de Dieu. C'est quand même une vocation très élevée. Donc, terminons aujourd'hui par un dernier passage des Écritures, Deutéronome 10. Pour terminer, Deutéronome 10, à partir du verset 12. Deutéronome 10, verset 12, pour terminer. Maintenant, Israël, Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Verset 14, voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes un peuple choisi. Ceux qui sont appelés dans cette époque moderne font partie de ceux que Dieu prépare pour l'avenir, comme je vous ai mentionné, pour une vocation élevée. Le couple marié est tellement essentiel dans l'Église de Dieu, dans la société autour aujourd'hui et dans la préparation des prémices pour le monde à venir. Donc, considérant souvent les 10 commandements, l'amour derrière les 10 commandements et considérant également la particularité de ce 7e commandement lorsque nous nous approchons de la Pâque et la période des pains sans levain. Donc, merci, frères et sœurs. Nous allons continuer notre série sur les 10 commandements une autre fois, mais je vous laisse avec ça pour aujourd'hui.